Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite, tous les samedis entre 12h et 13h. C'est Biotine, l'émission d'actualité scientifique que vous retrouvez sur l'antenne de Graphite. 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour développer encore une nouvelle fois la revue de presse de l'actualité scientifique. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai et au niveau de l'éphéméride, certaines choses, hein, c'est intéressant. En 1938, le début de la construction du canal du Rhin qui mène jusqu'au Danube. Le 11 mai 1960, c'est l'autorisation de mise en vente de la pilule contraceptive aux États-Unis. En 1987, le docteur Bruce Reitz de l'école de médecine de l'université de Stanford en Grande-Bretagne, pardon, il réalise la première transplantation cœur-poumon et il la réalise à Baltimore. C'était en 1987. Au XXIe siècle, eh bien, on a découvert cette découverte astronomique de la plus chaude planète connue à ce jour dans la constellation d'Hercule. Alors, on lui a pas donné de nom. Elle s'appelle HD 14926b. Oui, on va peut-être lui trouver un nom, hein, cette planète chaude qui a été découverte le 11 mai 2005. Et le premier essai sur terrain du moyen de transport futuriste, l'Hyperloop, c'est dans le désert du Nevada, c'était en 2016. On en a parlé de l'Hyperloop très souvent dans cette émission, et puis depuis un certain temps, on n'en entendait plus parler. Et à l'occasion donc de cet éphéméride, quand j'ai vu qu'en 2016, on faisait les premiers essais sur terrain de ce moyen de transport futuriste, on se rend compte que finalement, il y a eu beaucoup d'essais un petit peu partout en France, un petit peu partout dans le monde, et notamment en France, mais que d'une façon générale, tous ces essais sont arrêtés. Donc on n'a pas nécessairement continué ce Hyperloop. C'était un genre de... Comment on peut expliquer ça? Comme un tunnel où il y avait une capsule qui allait à très grande vitesse d'un point A à un point B. Et on se disait, voilà, ça va être un moyen de transport futuriste dans le sens où on pourra aller très très vite d'un point A à un point B grâce à ce système-là. Et finalement, les essais ont été pas nécessairement concluant, ce qui fait que quand on regarde un petit peu la liste des différents projets, il y a de très nombreux projets qui ont été lancés, eh bien on se rend compte que finalement il n'y en a aucun qui se poursuit pour l'instant. Et pourtant c'est assez récent, hein, parce que vous voyez les premiers essais datent de 2016, donc il y a 8 ans. Mais pour l'instant, voilà, on n'a pas nécessairement bien avancé dans ce domaine-là. Naissance de José Anastasio da Cunha. Il est né le 11 mai 1744 à Lisbonne. C'est un militaire et un mathématicien portugais. On ne parle pas souvent du Portugal dans cette émission. On en parle très souvent juste avant avec Henrique Vibrações, bien sûr. Mais là... c'est pas souvent que l'on parle du Portugal quand on parle d'actualité scientifique. Alors là, dans l'éphéméride, on parle de ce militaire hématicien portugais qui est reconnu comme un précurseur dans la recherche en mathématiques. Il était essentiellement connu pour ses travaux dans les domaines de la théorie des équations, l'analyse algébrique, la trigonométrie plane et sphérique, la géométrie analytique et le calcul différentiel. C'est-à-dire qu'il a quand même touché de très très nombreux domaines mathématiques. José Anastasio da Cunha, qui est donc né à Lisbonne un 11 mai, c'était en 1744. Décès le 11 mai 1871 de John Frederick William Herschel, qui est comme son père William Herschel, un astronome britannique. Il est aussi philosophe, physicien, météorologue et compte parmi les premiers pionniers de la photographie. Donc c'était à l'époque où on touchait à tout, hein. On est là dans le 19e siècle. En 1819, il découvre l'action du thiosulfate de sodium sur les sels d'halogénure d'argent tout ça aboutit en fait à l'utilisation en tant que fixateur des images photographiques. En 1839, il invente un procédé photographique qui utilise du papier sensibilisé. 1839, hein. Et c'est également lui qui s'efforce de faire adopter par la communauté scientifique le terme de photographie dès mars 1839. Et ensuite, c'est lui qui va imposer les termes de négatif et positif dans la photographie en 1840. John Frederick William Herschel, qui est donc mort le 11 mai 1871. Voilà pour l'éphéméride de ce jour. plusieurs actualités, pas mal d'articles que nous allons évoquer dans cette émission. Comme la semaine dernière, on n'aura pas nécessairement de fil conducteur, parce qu'il y a beaucoup de sujets que je souhaite aborder et je n'ai pas nécessairement trouvé, je dirais, une cohérence dans l'ensemble de ces sujets. Donc on va parler un petit peu de tout. On va parler notamment du blanchiment du corail. Le constat est le même dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. Entre février 2023 et avril 2024, aucune zone sur Terre n'échappe au blanchiment du corail à des degrés divers. Et ce qui est plus inquiétant encore, c'est que la moitié de la surface des océans est classée en niveau d'alerte 5 sur 5. Cela signifie que ces zones présentent un risque de mortalité à 100% des espèces présentes. Le niveau de stress des coraux est directement lié à la chaleur de l'eau. Et la température globale de surface des océans atteint des niveaux hors normes depuis le début de l'année dernière. Les dégâts les plus importants ont été constatés dans le golfe du Mexique, au large de la Floride et des Caraïbes, dans la grande barrière de corail en Australie, dans la mer Rouge, dans le golfe Persique, mais aussi le long de l'ouest de l'Afrique et du Portugal. Donc on voit qu'on est vraiment dans tous les continents, et en tout cas dans tous les océans plutôt. C'est la deuxième fois en 10 ans qu'un tel blanchiment mondial se produit. C'est la quatrième fois depuis les premières mesures qui ont été menées il y a une quarantaine d'années. Le blanchiment des coraux n'impacte pas seulement la biodiversité marine, il a également des conséquences sur les sociétés humaines. Les récifs coralliens sont une source de nourriture pour les populations littorales, en plus d'être un rempart qui atténue l'effet des tempêtes et des tsunamis sur les côtes. Et donc une partie des coraux en état de stress peut encore se rétablir si la température de l'eau redescend à un niveau plus classique. Ce qui n'est pas nécessairement prévu pour les prochaines années. Et donc, on est vraiment sur un niveau d'alerte vraiment important qui atteint 5 sur 5 pour la moitié de la surface des océans. C'est assez, c'est alarmant, bien évidemment. Et c'est assez catastrophique, bien sûr. Pas mal de sujets aussi alarmants en ce qui concerne les plastiques. L'année dernière, c'est environ 460 millions de tonnes de plastique qui ont été produits dans le monde. C'est colossal. Et à l'allure où vont les choses, eh bien, ce chiffre sera multiplié par 3 d'ici 2060. L'industrie du plastique semble inarrêtable, d'autant qu'elle déclare aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de pas loin de 1000 milliards de dollars. L'ONU, pourtant, a fixé au monde un objectif clair, la signature d'un traité de lutte contre la pollution plastique, et ce, avant la fin de cette année 2024. Il y a un comité international de négociation qui est en train de se réunir au Canada pour faire avancer les discussions. Les ONG, elles, ont d'ores et déjà arrêté leur position. Nous demandons un accord de réduction de la production de 50% minimum par rapport à 2019 et à l'horizon 2040, voire 2050. C'est ce que déclare le directeur des affaires publiques à la fondation Tara Océan à l'occasion d'une conférence de presse. Il s'appelle Henri Bourgeois-Costa. Il explique que c'est non seulement faisable, mais aussi souhaitable à tous les points de vue. Et il explique en fait ce qu'il entend par là. Faut déjà rappeler que les premiers travaux scientifiques portant sur la problématique de la pollution plastique, ça remonte aux années 1970. Donc on n'est pas... c'est pas récent cette prise de conscience de cette pollution plastique. Le monde a commencé par prendre conscience du problème en découvrant des déchets plastiques en mer. Puis les chercheurs ont révélé la présence de microplastiques de plus en plus et partout autour de nous, dans les airs, dans les sols, dans les eaux. Désormais, ces microplastiques traquent même, on arrive même à des nanoplastiques, c'est-à-dire encore des particules beaucoup plus petites, et en nous avertissant à chaque fois des impacts sur les écosystèmes de la circulation de ces produits. C'est ce qu'explique cette ONG. Mais le problème des plastiques, c'est un peu plus complexe encore, parce qu'aujourd'hui, on considère que le plastique menace un peu le vivant et l'environnement tout au long de son cycle de vie. Les plastiques contribuent déjà à un peu plus de 3% des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. C'est plus que le secteur aérien. C'est en croissance importante puisque nous avons une projection jusqu'à environ 15% des émissions d'ici 2060. Alors, avec la découverte de la présence de plastique dans les organismes vivants et jusque dans les cellules humaines, hein, on en a déjà parlé dans cette émission encore récemment, eh bien la problématique de leur toxicité a aussi émergé. La coalition scientifique adossée au traité estime qu'il se cache dans les plastiques quelques 16 000 produits chimiques. Or, les chercheurs n'en connaissent à peu près correctement qu'environ un tiers de ces produits chimiques. Et sur cela, eh bien, environ 4 000 sont considérés comme toxiques pour la santé ou pour l'environnement. Ok, c'est rassurant. Alors, parmi les enjeux mis en avant par les ONG, il y a celui de la connaissance scientifique. La recherche doit encore progresser et apporter des réponses. Ce n'est pas simple, notamment parce que les formulations qui peuvent être extrêmement complexes sont généralement couvertes par le secret industriel. Et au-delà de cela, parce que la quantité de molécules et d'interactions qui interviennent est énorme, et donc pour l'instant, mais c'est le principe de précaution qui devrait s'appliquer. C'est ce qu'explique donc cette ONG. Alors, d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue de santé publique, il semble assez clair que nous devrions nous passer de plastique. Il y a certains travaux qui suggèrent aussi que cela pourrait avoir un avantage économique. Alors du coup, là, c'est intéressant parce que si on parle d'argent, là, en général, on nous écoute un petit peu plus. L'estimation reste difficile à faire. Il y a aujourd'hui environ 35 000 plastiques différents en circulation. Sur les 16 000 molécules qu'ils utilisent, des travaux sur les coûts n'ont été menés que sur 4. Alors effectivement, c'est un petit peu restreint et dans une partie limitée du monde, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis et le Canada, la science nous dit qu'en comptant simplement sur les ressources et les alternatives de substitution qui existent, nous pourrions arriver à réduire de 50% notre production. Les économistes avancent qu'il nous en coûterait quelque 3 000 milliards de dollars par an sur les 25 prochaines années. Alors ça peut sembler beaucoup, mais si on ne fait rien, le coût de l'inaction, lui, est estimé à presque le double, c'est-à-dire pas loin de 6 000 milliards de dollars. C'est deux fois le PIB de la France. Des chiffres qui mènent à une conclusion. Réduire la production de plastique de 50%, ce n'est qu'une question de volonté politique. Et donc cette ONG, par le biais de son directeur Henri Bourgeois-Costa, explique: notre objectif, c'est donc de parvenir à un traité mondial de lutte contre la pollution plastique qui appelle à diviser par deux notre production de plastique. Ce n'est pas d'un retour aux âges des cavernes dont il est question, juste un retour à l'état de la production au milieu des années 2010. Donc c'est pas si loin que ça, en fait. Si on devient raisonnable, c'est pas nécessairement l'âge de Cro-Magnon qu'on souhaite voir apparaître, mais plutôt voilà une situation qui était celle qui existait il y a une bonne dizaine d'années. Il y a des modélisations qui estiment que pour atteindre les objectifs climatiques fixés par l'accord de Paris, eh bien nous aurions besoin de réduire la production de 75%. Ça va être assez compliqué quand même. Alors que les conclusions de la conférence de Stockholm fixent même à zéro la quantité de nouvelles entités dont les plastiques font partie, que nous devrions injecter dans le système pour rester dans les limites planétaires. Mais les pays pétroliers et leurs alliés notamment militent de manière très ordonnée pour que le traité ne porte que sur la question de la gestion des déchets. Donc on n'est pas sur la question de la production de plastique, mais sur la question de qu'est-ce que l'on fait des déchets plastiques. Et nous sommes aujourd'hui au contraire sur la voie d'une multiplication par 3 de la production de plastique à l'horizon 2060. Ça reste un objectif ambitieux de réduire de moitié, alors qu'on nous dit plutôt qu'on va multiplier par 3. Mais voilà, il y a une prise de conscience qui doit être faite sur cette production de plastique qui pourrait tripler d'ici 2060. C'est une alerte rouge. Et qui dit production dit ensuite déchets plastiques qu'il va falloir gérer, bien évidemment. C'est assez alarmiste, alarmant, inquiétant. Mais là, voilà, on est sur des chiffres qui sont assez importants et qui illustre bien une dérive dans laquelle il est difficile de... cette ONG nous dit qu'il va falloir prendre des décisions d'un point de vue politique, effectivement. Peut-être qu'une conscience citoyenne serait assez bénéfique pour ce domaine-là. Affaire à suivre, bien évidemment. Allez, on continue à tourner les pages de la revue de presse de l'actualité scientifique dans cette émission Biotine. Et puis on écoute aussi un petit peu de musique. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Ça nous fait du bien également. On écoute Petit Béliveau sur l'antenne de Graphite. Béliveau avec Je file comme un alien sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique et on continue comme ça à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet et sur la bande FM 94.9. On va parler des volatiles sur, comment dire, sur deux aspects totalement différents. Déjà, la grippe aviaire, c'est une façon de parler des volatiles, des traces du virus H5N1, c'est le virus de la grippe aviaire. Des traces ont été identifiées dans du lait de vache qui était pourtant pasteurisé et ça a été identifié aux États-Unis. C'est un communiqué de l'Agence américaine de médicaments de fin avril qui annonce donc cette présence de traces de ce virus. Au cours d'une vaste enquête nationale, les particules virales ont été découvertes dans le lait provenant d'animaux affectés, dans le système de transformation et sur les étagères. Alors la grippe aviaire avait déjà été détectée dans du lait cru, hein, dont la consommation est déconseillée par les autorités sanitaires, mais le processus de pasteurisation est généralement censé éliminer les agents pathogènes à un niveau qui ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs. C'est ce que rapporte, ou en tout cas rappelle, l'Agence américaine du médicament. Et cette agence justifie la présence du virus dans le lait pasteurisé en précisant que si la pasteurisation est susceptible de rendre inactif le virus, eh bien le processus ne devrait pas éliminer la présence de particules virales. C'est pourquoi le test quantitatif qui a été utilisé a révélé la présence de virus dans certains échantillons collectés. Étant donné que les résultats de ce test ne représentent pas le virus réel susceptible de constituer un risque pour les consommateurs, eh bien, l'Agence américaine de médicaments poursuit l'évaluation de tout résultat positif au moyen de tests d'inoculation d'œufs. En fait, ça consiste à injecter un échantillon dans un œuf de poule embryonné et à vérifier si le virus actif se réplique. C'est-à-dire que si le système détruit le virus mais que vous avez encore des éléments de particules virales, eh bien on détecte donc du coup le virus, mais la question de savoir si le virus est vraiment actif ou pas. À ce jour, il y a un seul cas d'une personne exposée à des animaux infectés qui a été associé à ce foyer chez les vaches laitières, et bien le risque pour le grand public reste faible, c'est ce que l'on nous dit. Des résultats provenant de plusieurs études devraient être disponibles dans les prochaines semaines. En attendant, eh bien l'Agence américaine du médicament continue d'indiquer que sur la base des informations dont nous disposons actuellement, notre approvisionnement en lait commercial est sûr, nous dit-on. Mais voilà, on a trouvé des traces de ce virus H5N1 dans du lait de vache pasteurisé aux États-Unis. Et puis donc la deuxième information qui concerne les volatiles, on va plutôt précisément parler des poules. Et des poules ont des rougissements plus ou moins importants en fonction de leur état émotionnel. Elles rougissent d'émotion, les poules. C'est ce que rapporte l'Institut national pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE. C'est dans un communiqué qui date de la semaine dernière, donc qui date de fin avril, pardon, et qui cite une étude publiée dans la revue Applied Animal Behavior Science. C'est grâce à un logiciel d'imagerie et à 18 000 clichés de 6 poules qui ont été étudiés sous toutes les coutures pendant 3 semaines, que les chercheurs de l'INRAE ont pu distinguer des nuances de rougissement chez cette espèce de poule, qui une espèce qui est réputée pour sa pondaison. Au sein d'un verger du Val-de-Loire, eh bien, l'équipe de l'INRAE a pu constater que face à des vers de farine, les poules rougissaient, mais qu'elles devenaient écarlates lorsqu'elles vivaient une expérience négative, comme la capture par exemple. Dans un contexte de repos, eh bien, leur peau apparaît beaucoup plus claire. Et partant de ces constats, l'équipe de recherche de l'INRAE a isolé 13 poules pour les habituer à la présence d'un humain pendant 5 semaines. Et par comparaison à d'autres poules, eh bien, les chercheurs ont pu observer que le groupe soumis à l'expérimentation arborait une face plus claire, ce qui traduit un état plus calme en présence de cet être humain. Cet indice peut indiquer une perception plus positive de la présence humaine par rapport aux poules qui ne sont pas habituées à l'homme, et ça peut constituer un nouvel outil pour évaluer le bien-être animal. C'est ce qu'avance l'INRAE dans son communiqué. Ces recherches, elles ouvrent d'autres pistes pour l'équipe de recherche qui souhaite explorer les corrélations de ces rougissements avec d'autres expressions des poules, comme le mouvement des plumes sur leur tête. Les chercheurs aimeraient aussi comprendre les éventuels sens de ces rougissements entre poules, notamment lors des interactions de domination ou de subordination. Mais voilà, l'INRAE découvre que les poules rougissent d'émotion. Et ce n'est pas, c'est pas l'apanage des êtres humains et des mammifères. Voilà, les poules ont également cette capacité à rougir face à une émotion particulière. C'est assez étonnant, on n'aurait pas cru en fait que les poules pouvaient rougir. Je sais pas. On a des fois des sujets qui sont assez bizarres. Alors, on va continuer avec cette annonce de la société américaine Exodus Propulsion Technology. Cette société américaine vient d'annoncer qu'elle a mis au point une technologie révolutionnaire de lanceur de fusée qui n'a pas besoin de carburant. Alors ça, c'est assez étonnant quand même. Cette force sera utilisée pour propulser des objets pendant les 1000 prochaines années. C'est ce que Charles Buller, qui est un ancien de la NASA, c'est ce qu'il a expliqué à un média qui s'appelle The Debrief. Lancer une fusée sans avoir besoin de carburant, c'est évidemment le rêve des agences spatiales, étant donné la quantité d'énergie nécessaire à extraire une fusée de l'atmosphère et de l'orbite terrestre. Mais l'affirmation donc de cette société américaine a quand même de quoi faire douter, parce qu'une telle invention apparaît farfelue. Et pourtant, eh bien, Exodus Propulsion Technology est composée d'un mélange de pointures avec des ingénieurs et des scientifiques issus de la NASA, de l'American US Air Force, je vais y arriver, d'ExxonMobil, de Blue Origin. Donc en fait, il y a quand même une crème des ingénieurs qui travaillent dans cette société, des personnes plutôt sérieuses et avec des compétences assez intéressantes. Et Charles Buller, il n'a pas vraiment délivré les détails techniques. La propulsion, elle se baserait sur la conversion directe de l'énergie électrique en poussée physique, c'est-à-dire une propulsion électrostatique. C'est ce procédé qui est employé pour réorienter les satellites. L'électrostatique était justement sa spécialité à la NASA, à Charles Buller. Il supervisait la gestion des décharges électrostatiques et la sécurité de ces décharges pour la navette spatiale, pour la Station Spatiale Internationale et pour Hubble. Mais de là à propulser un lanceur de fusée depuis la Terre, ça semble totalement farfelu. Alors, le scientifique explique qu'au lieu d'exprimer la poussée en Newton, il préfère la décrire en termes de gravité, puisque c'est le but ultime de la physique de la propulsion. Ainsi, jusqu'à la fin 2020, Charles Buller affirme que leur meilleur concept produisait un peu plus de 100 millièmes de gravité, mais que dans les années à venir, eh bien, ce chiffre va augmenter de façon exponentielle. Donc son objectif, c'est de dépasser l'unité. Ça signifie que si l'objet génère suffisamment de poussée pour s'élever dans la gravité terrestre, cela correspond à 1 gravité de poussée. Le maximum que l'équipe a pu générer, c'est une poussée de 10 millinewtons avec des objets de 30 grammes. Une force qui reste 100 fois inférieure à celle que l'on exerce lorsque l'on tient une pomme dans une main. C'est difficile d'imaginer que ce propulseur révolutionnaire puisse envoyer un jour une fusée dans l'espace, mais sur des choses légères avec des petites dimensions, d'après lui, on a réussi à le faire, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse ne pas le faire dans le cadre d'une fusée. Vous l'avez compris, cet article, il est assez troublant parce que quelque part, on est sur des choses qui n'ont pas été présentées de façon exhaustive ni qui du coup n'ont pas pu être vérifiées. On est juste sur une annonce qui a été faite sur cette force utilisée pour propulser des objets pendant les 1000 prochaines années, mais on ne sait pas encore laquelle. On suivra ça, bien sûr, parce que ça interroge dans les milieux scientifiques, bien évidemment. On se pose un peu la question de savoir, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? On suivra ça, bien sûr, parce que je ne doute pas qu'il y aura prochainement pas mal d'articles scientifiques sur ce sujet-là. Allez, on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Vous êtes bien sur Graphite, il y a de la science, il y a de la musique. Forever Pavot avec Au Diable sur Antenne de Graphite. Il pleut ou pas? Non, peut-être pas. Vous êtes bien sur Graphite, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, la rediffusion le mardi matin à 10h, sur le 94.9 pour la bande FM et graphite.net sur Internet pour nous écouter soit en direct, hein, soit en décalé, avec la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts des émissions de Graphite. Deux petites informations d'un point de vue médical. Alors, première, celle-ci, pour conserver un cerveau en bonne santé, il est souvent conseillé de lire ou de faire des mots croisés, mais le sport est aussi un excellent moyen de muscler ses neurones. Une étude affirme que la musculation aurait des effets bénéfiques sur le fonctionnement cérébral. Il y a des chercheurs de l'université Tohoku qui ont fait cette découverte après avoir mené une expérience en deux temps avec 60 jeunes adultes. Les volontaires ont d'abord dû apprendre des listes de mots avant de réaliser trois séries de levées de poids par flexion et extension des jambes à 80% de leur force. Deux jours après cette séance de musculation, les participants ont dû se rappeler du plus grand nombre de mots possible. Il est apparu que les jeunes adultes qui avaient suivi la séance d'entraînement se souvenaient de plus de termes que ceux du groupe qui n'avait pas fait ces exercices deux jours plus tôt, et donc ces résultats révélant qu'un bref exercice de résistance de haute intensité entraînement musculaire pourrait améliorer la mémoire, c'est ce qu'écrivent les universitaires dans leur étude parue dans la revue Brain and Behavior. Alors, comment expliquer ce phénomène? Les auteurs de cette recherche ont analysé l'activité des neurones des participants grâce à un appareil d'IRM fonctionnel. Cela a permis de mettre en lumière le fait que les volontaires qui avaient suivi la mini-séance de musculation présentaient une plus grande plasticité cérébrale. La partie postérieure gauche de leur hippocampe, c'est la région du cerveau qui est impliquée dans les mémorisations, eh bien, elle communiquait davantage avec les zones qui jouent des rôles cruciaux dans le traitement de l'information sensorielle. Et cette plasticité des neurones, cette neuroplasticité accumulée, pourrait être due à la libération pendant l'effort physique de protéines qui stimulent le développement de nouveaux neurones et préservent ceux existants. Il y a des études antérieures qui ont montré que la course à pied engendre une croissance neuronale, mais jusqu'à présent, la communauté scientifique ne savait pas que ces séances d'activité physique courtes et intenses pouvaient apporter les mêmes bénéfices. Alors, si les conclusions de cette étude sont prometteuses, les chercheurs soulignent que tous les participants n'ont pas vu leur capacité de mémorisation s'améliorer dans les deux jours qui ont suivi leur séance de musculation. Quoi qu'il en soit, il ne fait nul doute que faire de la musculation est bon pour la santé. Donc, enfilez vos baskets et préparez-vous à repousser vos limites physiques et cognitives. C'est le résultat donc, de cette étude, hein, cet effet surprenant de la musculation sur la mémoire. Autre information d'un point de vue médical, c'est l'étude du génome qui n'est pas terminée. Jusqu'à aujourd'hui, on pensait que les mutations génétiques étaient indispensables au processus d'apparition des cancers, l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Mais une équipe de recherche vient de faire une découverte majeure qui remet en question cette considération et qui ouvre ainsi de nouvelles pistes thérapeutiques en cancérologie. Et si les cancers trouvaient leur origine dans l'épigénétique? C'est la question. Alors l'épigénétique, ça regroupe l'ensemble des modifications de la régulation de l'expression des gènes. Ce sont elles qui expliquent par exemple pourquoi à partir d'un génome identique, un individu peut développer des cellules très variées comme les neurones, les cellules de la peau. Et ce sont également ces modifications qui peuvent induire des cancers, d'après la récente découverte d'une équipe de recherche comprenant des scientifiques de CNRS, une étude qui a été publiée fin avril dans la revue Nature. Et pour en arriver à cette conclusion, l'équipe de recherche s'est intéressée à des facteurs épigénétiques pouvant altérer l'activité des gènes chez la drosophile. La drosophile, c'est une petite mouche et qui sert énormément dans les recherches en génétique. Et donc, on a travaillé sur cette fameuse drosophile. Les chercheurs ont provoqué un dérèglement de ces facteurs et puis ils ont restauré l'état normal des cellules. Et en fait, on constate qu'une partie du génome restait dysfonctionnelle, ce qui induit un état tumoral persistant, autonome, évolutif, et garde en mémoire le statut cancéreux des cellules, alors même que le signal initiateur était réparé. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Il y a des études qui avaient déjà souligné l'influence de l'épigénétique dans le développement de tumeurs, mais c'est la première fois qu'il est démontré que les mutations de l'ADN qui s'accumulent au niveau du génome, elles ne sont pas indispensables à l'apparition des cancers. En d'autres termes, cette découverte, elle montre que des processus pas forcément génétiques sont entièrement capables de provoquer l'apparition et le développement de tumeurs, ce qui ouvre ainsi la voie de nouvelles pistes thérapeutiques. Donc c'est vraiment une découverte assez importante et majeure et qui remet un petit peu en question tout le rôle des mutations génétiques dans le cancer. C'est vraiment une annonce assez importante. J'ai pas trop l'impression d'avoir vu beaucoup d'articles sur ce sujet-là. Ça date de fin avril, donc ça a été paru fin avril dans la revue Nature. Alors bien sûr, il va peut-être falloir avancer un petit peu et avoir, peut-être une répercussion dans certains médias. Mais c'est vraiment une découverte assez intéressante qui permet, voilà, de... En fait, si on comprend mieux comment ça se passe, hein, si je traduis d'une façon simple, si on comprend un petit peu mieux comment ça se passe, on peut être en mesure de pouvoir trouver des solutions de thérapie qui seraient plus efficaces. Voilà. Quand on arrive à comprendre le fonctionnement, c'est beaucoup plus simple à réparer entre eux. Bon. Là, je caricature, je suis vraiment très basique, mais c'est cette idée-là. Et en tout cas, cet article apporte vraiment un élément important et totalement crucial sur le développement des cancers, effectivement. Donc c'est bien sûr une affaire à suivre. Toujours au niveau médecine, il y a une étude qui a été publiée dans une revue qui s'appelle Current Alzheimer Research, qui explique que la consommation récréative de cannabis, donc on est bien sur une notion de plaisir, on n'est pas du tout dans du cannabis médical, eh bien cette consommation peut être associée à une diminution du risque de déclin cognitif subjectif chez les adultes de plus de 45 ans par rapport à ceux qui n'en consomment pas. Ça veut dire quoi ? C'est que c'est un bénéfice assez étonnant du cannabis récréatif. Il faut noter que les personnes qui sont atteintes de déclin cognitif subjectif, elles présentent un risque deux fois plus élevé de démence et pour laquelle il n'existe encore aucun traitement. Alors, concrètement, l'expérience était la suivante. Il y a eu près de 4800 personnes, des adultes américains âgés de 45 ans et plus, qui ont partagé leurs données issues du système américain de surveillance des facteurs de risque comportementaux. Et ce déclin cognitif subjectif correspondait à une augmentation autodéclaré de la confusion ou de la perte de mémoire au cours de l'année 2021, parce que l'expérience date de 2021, mais on a fait l'exploitation des résultats après. Et le type de cannabis, soit un cannabis médical ou soit un cannabis récréatif, la fréquence, la méthode de consommation, tout ça a été pris en compte dans les résultats. Alors, il n'y avait pas de différence dans les probabilités de déclin cognitif subjectif en fonction de la fréquence et de la méthode de consommation du cannabis. La méthode de consommation, ça veut dire soit fumer, soit vaporiser, soit manger. Au contraire, la différence de composition entre le cannabis médical et le cannabis récréatif pourrait expliquer ces résultats. Les consommateurs non médicaux utilisent souvent le cannabis pour améliorer leur sommeil et réduire leur stress. C'est ce qu'explique le communiqué. Un mauvais sommeil et un stress chronique augmentent le risque de démence, de sorte que la protection dans le cas du déclin cognitif subjectif pourrait provenir de l'amélioration du système, du sommeil, et du soulagement du stress que procure le cannabis. Alors, Si l'étude suggère que le cannabis présente des bienfaits sur la cognition des plus de 45 ans, il est essentiel de mener des études longitudinales sur plusieurs années, bien évidemment, parce que là, on est quand même sur un panel assez restreint et sur un temps assez restreint de cette étude. Nous avons besoin donc d'avoir un petit peu plus d'informations et de mener ça sur plusieurs années pour voir si la consommation de cannabis à des fins non médicales protège notre cognition au fil du temps. C'est quelque chose que nous ne savons pas encore, mais cette recherche est entravée par le fait que le cannabis reste illégal au niveau fédéral. C'est ce qu'a expliqué Roger Wong, qui est donc le professeur adjoint au département de santé publique et de médecine préventive. Mais voilà, cette étude, elle est assez troublante quelque part, parce que elle montrerait, alors là j'utilise bien sûr le conditionnel parce que, comme je vous l'ai dit, on est quand même sur un panel assez restreint pour cette étude expérimentale, mais elle montrerait des effets plutôt positifs de l'utilisation du cannabis récréatif dans le cadre des personnes, pour diminuer le risque d'avoir un déclin cognitif subjectif. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu ça peut entraîner ensuite ce déclin cognitif entraîne vers la démence. Et donc, quelque part, l'utilisation du cannabis récréatif permettrait de diminuer ce risque d'avoir ce déclin cognitif. Affaire à suivre, bien sûr, vous l'avez compris, ce genre de résultat, eh bien, ça prête toujours un peu à confusion. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus et on va poursuivre ces études. Mais voilà, ça a été annoncé il y a quelques jours et on va essayer de poursuivre les études pour avoir une meilleure explication, une meilleure interprétation des résultats. On continue d'écouter un petit peu de musique sur l'antenne de Graphite et on se retrouve juste après. We'll be right back.
My dream of love is coming true. Beneath our desert
caravane, c'était Joanne Fargeau sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir vous tenir informé de l'actualité scientifique en consultant régulièrement les revues de vulgarisation scientifique qui existent. Il y a Science et Vie qui existe, il y a Science et Avenir. Et ils ont notamment Science et Avenir, parce que c'est ce qu'on va feuilleter. On va feuilleter Science et Avenir là dans cette émission. Science et Avenir a des petites pages de brèves et c'est assez intéressant parce que on parle de pas mal de sujets mais de façon très courte et parfois illustrée. Par exemple, on apprend que pour la première fois, il y a un petit robot chirurgical qui a été envoyé sur la Station Spatiale Internationale et qui a pu être manipulé depuis la Terre pour simuler une opération chirurgicale. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres de distance et on arrive là encore à créer une liaison entre le robot chirurgical qui se trouve dans la Station Spatiale Internationale et on peut le commander depuis la Terre. Ça, c'est l'une des utilisations des robots chirurgicaux qui est assez fascinante. Enfin, l'une des, comment dire, l'un des avantages, l'un des atouts des robots chirurgicaux, c'est-à-dire que on peut les commander à distance et si on a un expert, un chirurgien qui est vraiment expert de son domaine mais qui se trouve à l'autre bout de la Terre, on peut être opéré par un robot chirurgical qui est commandé par cet expert qui est à des milliers de kilomètres de distance par rapport à nous. Et bien là, c'est ce qui a été fait. Alors on rajoute encore quelque chose de beaucoup plus, c'est l'effet waouh, parce que du coup ce robot est dans la Station Spatiale Internationale. Il aurait pu être à l'autre bout de la Terre, mais c'est la même idée. Et ce qui est intéressant aussi, bien évidemment, c'est que on peut, enfin, s'il y a quelqu'un qui a besoin sur la Station Spatiale Internationale d'une opération chirurgicale assez urgente, il n'aura peut-être pas trop le temps de revenir sur Terre. Donc, on a ce robot et ce test qui a été mené pour la première fois, c'est ce que nous apprend Science et Avenir. Il y a des chercheurs qui ont également développé un capteur robotique qui intègre des techniques d'intelligence artificielle pour lire le braille deux fois plus vite que la plupart des humains. Ça aussi, c'est quand même assez intéressant. On a, alors, dans Science et Avenir, on a ce projet de la NASA qui a lancé des études de faisabilité pour un avion martien à énergie solaire. Ce projet s'appelle Maggie. C'est un engin qui serait entièrement automatisé et qui serait recouvert de cellules photovoltaïques, donc de panneaux solaires, entre guillemets. L'objectif, c'est de réaliser des vols de 200 km à une vitesse de 300 km/h et jusqu'à 1000 mètres d'altitude, de quoi parcourir en théorie une distance totale de 16 000 km lors d'une année martienne. Alors, sur Mars, l'année dure plus de 680 jours. C'est presque le double d'une année sur Terre. Ça peut révolutionner aussi l'exploration de la planète rouge, ce projet d'avion martien à énergie solaire. Et vous avez dans Science et Avenir une photo de ce prototype. C'est même pas le prototype, parce que pour l'instant, c'était un projet. Donc, c'est une photo qui présente par une vue d'artiste ce fameux avion Maggie qui vole au-dessus de Mars. Et c'est comment vous expliquer? Il a des très grandes ailes et toutes ces ailes sont recouvertes de panneaux solaires. Voilà à quoi pourrait ressembler ce fameux avion du futur. Au niveau des animaux, il y a des pages aussi dans Science et Avenir qui abordent le sujet des animaux et de la biologie en général, et c'est assez intéressant. Par exemple, il y a une étude qui a évalué l'utilisation des déchets par des Bernard l'ermite terrestre pour s'abriter. C'est-à-dire qu'à la place des coquilles vides de gastéropodes, eh bien 80% des spécimens de Bernard l'ermite qui vont plutôt utiliser des bouchons en plastique pour faire leur domicile. Alors, plus rarement dans des déchets en métal ou en verre, mais ils aiment bien les bouchons en plastique. L'abondance d'ordures, le manque de coquilles disponibles et la sélection sexuelle pourraient expliquer ce changement comportemental. Et voilà, on a ce Bernard l'Ermite en photo qui s'est installé dans un bouchon en plastique d'un détergent et il a l'air d'être bien. Bon, comme quoi, bah, finalement, la pollution plastique dans les océans, c'est utile. Voilà, il faut toujours trouver une bonne solution aux problèmes qu'on peut avoir. Autre étude menée par le CNRS qui a mené une étude sur les ports maritimes qui accélère la dispersion d'un cancer rare mais transmissible chez les moules partout sur la planète. La maladie se propage par les cellules cancéreuses qui circulent entre les mollusques. La contagion elle est accélérée par le déplacement des moules qui sont malades fixées aux coques des bateaux. Et les chercheurs plaident pour que ces coques soient mieux nettoyer parce que les ports deviennent des foyers cancéreux pour les moules. C'est cette étude du CNRS, c'est assez extraordinaire quand même quelque part. Enfin, au niveau de la pollution de l'air, les normes sur la qualité de l'air auxquelles devront répondre les États membres de l'Union européenne d'ici à 2030 ont été durcies. Pour les oxydes d'azote et les particules fines, eh bien les seuils sont abaissés de moitié sans pour autant atteindre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Mais voilà, il y a des nouvelles normes pardon, qui ont été préconisées et qui ont été mises en place par l'Union européenne. On parlait du blanchiment de corail. Eh bien, la grande barrière de corail d'Australie subit un épisode de blanchiment massif. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Environnement australien. Oui, on en a évidemment parlé dans cette émission de ce blanchiment du corail en début d'émission. Donc voilà, Science et Avenir revient et parle nécessairement au niveau de l'Australie. Hein, c'est le ministère de l'Environnement australien qui en parle. Le nombre de nouvelles espèces migratrices protégées s'élève à 14 hein, parmi ces animaux retenus par les États membres lors de la COP 14 sur les espèces migratrices. Eh bien, il y a le lynx eurasiatique, le chat de Pallas, le requin taureau, le grand dauphin de l'île, le pélicantage ou encore trois raies de Méditerranée. Hein, il y a un accord entre 30 pays qui a par ailleurs été signé pour coordonner l'action de préservation des espèces d'oiseaux migrants entre la Sibérie et les pays riverains de l'océan Indien et du sud-est asiatique. Et enfin, au niveau éthologie, c'est l'étude du comportement des animaux, dont l'être humain. On a cette étude de l'Université de Californie à Los Angeles qui nous explique que comme les enfants, eh bien, les jeunes bonobos, orang-outans, gorilles et chimpanzés sont adeptes de la taquinerie ludique, gêner l'activité de l'autre ou faire mine de lui offrir un objet pour finalement le lui retirer, eh bien la taquinerie leur permet d'obtenir l'attention d'un congénère. La présence de ce comportement chez ces quatre espèces suggère que les taquineries ludiques et leurs prérequis cognitifs étaient présents chez notre dernier ancêtre commun. C'est ce que souligne cette étude. Donc voilà, on a une photo d'un jeune chimpanzé qui attire l'attention d'un adulte en adoptant une attitude taquine donc chez ces grands singes mais aussi chez l'homme et donc on se dit qu'il y aurait véritablement un ancêtre commun qui avait peut-être lui aussi ce réflexe-là de la taquinerie juvénile. Voilà, c'est avec cette image et information plutôt plaisante que nous allons nous quitter sur l'antenne de Graphite. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission. On va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Biotine sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet avec la possibilité, bien sûr, de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne semaine et on se retrouve samedi prochain à 12h. À bientôt, au revoir.